L'ami du village, chapitre 5. Claudine. Sous la conduite du père Sylvain, Guillaume était revenu vers la clairière. Une légère fumée s'échappait du toit de la cabiole. Sur le seuil, Claudine achevait d'éplucher quelques légumes. « Soigne bien le souper, lui dit le vieillard. Monsieur le maître d'école veut bien le partager avec nous. » « Ah, tant mieux, dit la fillette. Et, sur les pas de son père adoptif, elle rentra. Guillaume entendit à l'intérieur un cri joyeux de la paralytique, puis, sur son front sans doute, le bruit d'un cordial baiser. Sylvain reparut presque aussitôt, et désignant à son hôte un tronc d'arbre renversé en guise de banc à côté de la porte, il s'y assit à son tour. Un dernier rayon de soleil se jouait sur son visage ridé parmi ses cheveux blancs. Il se recueillit un instant, puis commença en ces termes. « Il faut d'abord vous apprendre que durant l'été, presque chaque dimanche, les orphelines de l'hospice viennent se promener par ici. Souvent je les regardais, m'amusant de leurs jeux. Quand on n'a pas eu le bonheur d'être père, il reste au fond du cœur comme une soif qui réclame satisfaction, comme un sentiment qui ne demanderait qu'à grandir. J'aimais donc, mais de loin, en silence, ces pauvres petites créatures, n'ayant plus ni père ni mère, et conséquemment, déshéritées aussi d'une bonne grosse part dans les joies d'ici-bas. De ce que ces enfants-là n'étaient à personne, il me semblait un peu à moi qui n'en avait pas. N'étions-nous pas quasiment de la même famille? Une bambine surtout m'attirait, me plaisait, et cela dès le premier jour où ses grands yeux noirs s'étaient arrêtés sur les miens. Ah, je vois que vous les avez remarqués à votre tour, les beaux yeux, les yeux sans pareil de notre Claudinette. C'était une singulière enfant, vive, alerte, enjouée, pétulante comme pas une, tant qu'elle s'ébattait librement au grand air, au grand soleil. Mais sitôt que le signal du départ était donné, sitôt qu'il fallait se remettre en rang pour regagner la ville, vous ne l'auriez plus reconnue. Changement soudain, complet. Elle baissait la tête, et toute assombrie, toute navrée, s'en allait avec une morne résignation qui faisait peine à voir. De temps en temps, elle se retournait, poussant un gros soupir à l'adresse de la forêt et de la liberté. Ses grands yeux même s'étaient voilés, s'étaient éteints. Oh, je vous jure qu'elle n'avait plus envie de rire. Pourquoi cette tristesse? Certains jours, étant à la ville, un hasard voulut qu'on me montrât l'hospice. C'est au nord, et dans l'ombre de la grande butte formée par les remparts. Une vilaine bâtisse. De hautes murailles, humides et noires, presque pas d'air, jamais de soleil, autant dire une prison. Mon cœur se serra, j'avais compris. Le dimanche suivant, les orphelines revinrent au bois. Je revis la fillette aux grands yeux. Elle était si réjouie, si heureuse, et j'en avais pour ma part tant d'aise, qu'à chaque instant je me départissais de mon travail pour la regarder cueillir ses bouquets et danser, gazouiller dans l'herbe ou le feuillage, avec la légèreté d'une chevrette, avec la gaieté d'un pinson. Finalement, elle s'en aperçut, et chaque fois que ses ébats la ramenaient dans mon voisinage, elle faisait un petit temps d'arrêt et m'envoyait un regard étonné, parfois même un beau sourire. De mon côté, je souriais aussi. Puis je me remettais à bûcher, mais sans grande attraction à l'ouvrage. Tant et si bien que je finis par me donner un grand coup de cognée dans la jambe. La surprise et la douleur m'arrachèrent un cri. Je chancelais, je tombai sur les genoux. Ah, c'est alors qu'il fallut la voir, bondissant vers le pauvre blessé, le consolant de sa douce voix. Puis elle courut tremper son mouchoir au ruisseau, lava la plaie, banda ma vieille jambe et voulut à toute force me servir de soutien pour regagner la cabiole. Une petite femme, quoi, adroite et prévenante, comme une sœur de charité. Elle n'avait guère plus de 10 ans. Quand elle me quitta, je ne me sentais plus de ma souffrance. nous nous étions embrassés. Les baisers d'un enfant, pour ceux-là qui n'en ont pas l'habitude, ça vaut tous les baumes des apothicaires. Cependant, ma blessure était assez grave, et comme je m'obstinais à besogner quand même, elle s'envenima. Force me fut de rester à la cabiole. J'étais donc assis à cette même place où nous voici, lorsque reparurent les orphelines. Claudine, elle m'avait déjà dit son nom, Claudine vint à moi tout de go. Une grande heure durant, elle me tint fidèle compagnie. Grand sacrifice! Et elle me causait si gentiment, de si franche amitié, que cette amitié-là gagna promptement le cœur de Marianne. Marianne, monsieur, c'est ma femme. N'écoutant d'abord que par intervalle, elle avait fini par s'asseoir à côté de nous. Lorsque l'enfant dut partir, elle l'embrassa. Puis, tout émue, toute charmée à son tour, « Ah, la venante mignonne !» me dit-elle. « Ce serait la joie d'une maison !» Comme bien vous le pensez, ce mot ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd. Ce fut comme une bonne semence qui devait bientôt porter ses fruits. La venante mignonne revenait presque chaque dimanche, et l'on babillait comme de vieux amis. Elle nous disait ses petits chagrins, sa grosse tristesse. Non qu'elle accusât les gens de l'hospice, les bonnes sœurs, bien au contraire. Elle les aimait autant qu'elle en était aimée. Mais l'hospice, voyez-vous, c'est toujours l'hospice. Celui-là, surtout, qui vous a une mine peu réjouissante. Rien, d'ailleurs, ne remplace l'affection d'une mère, d'une famille. Et puis, il y a des natures auxquelles il faut l'espace et la liberté, tout comme il y a des oiseaux qui ne peuvent vivre dans une cage. Claudine était ainsi. Demeurant là-bas, j'en suis sûre, elle y serait morte. Toujours est-il que vers la fin de la saison, aux approches de la Toussaint, l'enfant nous avertit que c'était le dernier dimanche pour les promenades au bois. Il fallait se dire adieu, non plus pour une semaine, mais pour tout un hiver, voire même un bon bout de printemps. Aussi nous avions le cœur gros. Mais qui s'affligeait le plus? Pas moi. Pas l'enfant, c'était Marianne. Une bonne et digne femme, allez. En embrassant l'orpheline, elle pleurait à chaudes larmes. Il y en avait aussi sous mes vieilles paupières. Claudine sanglotait. Cependant, j'avais mon idée. Mais je n'osais encore en parler tout haut, dans la crainte qu'après une fausse joie, la séparation ne semblât plus amère encore. Il me fallait des renseignements. Dès l'aube du lendemain, sans faire semblant de rien, je partis pour la ville. Ah, je fus revenu de bonne heure, allez, monsieur, jamais le père Sylvain n'a marché si vite. Femme, dis-je à Marianne, tu t'es chagrinée autrefois de ne pas avoir d'enfant. Ton cœur est celui d'une mère. Enfin, tu aimes bien Claudine. Veux-tu que nous la prenions avec nous? Qu'elle soit notre fille? C'est possible. Je vous jure que la mère Sylvain ne fut pas longue à mettre ses souliers, sa mante et son bonnet. Nous partîmes bras dessus, bras dessous, tout droit vers l'hospice. On accueillit notre demande, sauf information. Mais nous étions sans crainte, car tout le monde nous connaît pour d'honnêtes gens. Oui, da. Quant à ce qui est du nécessaire, nous l'avons. La forêt nous le donne, en travaillant, bien entendu. Car celui qui vous parle est un laborieux bûcheron, qui, malgré son âge, gagne encore de bonnes journées. Jusqu'à la dernière heure, il bûchonnera, pour Marianne et pour Claudine. On nous l'avait accordé. Je vois encore la bonne sœur nous l'amenant un beau matin. Le contentement de la mère et les transports de la petite. Elle tomba comme pâmée dans mes bras. Puis ce furent à la fois des éclats de rire et des sanglots, une joie folle. Avant de s'éloigner, la bonne sœur nous bénit tous les trois. Je vous laisse à penser si désormais la cabiole fut en fête. Tout ce qu'on réclamait de nous, c'était d'élever la petite honnêtement, chrétiennement. Quant à l'honnêteté, les trois quarts de la besogne étaient déjà faits, par les bonnes sœurs et par le bon Dieu. Claudine est une de ces créatures sur lesquelles l'esprit du mal n'a prise aucune. Elles font le bien tout comme poussent les plantes de nos bois, de nature. Chrétiennement, c'était l'Église. Je ne vous dirai pas qu'on en rencontre à chaque pas dans nos forêts, témoin cette futaie de vieux êtres. Est-ce que leur tronc élancé est poli comme de vieilles colonnes de marbre? Est-ce que leurs chapiteaux de branches et leurs dômes de feuillage ne sont pas la ressemblance et peut-être le modèle des cathédrales? Pour encens, les parfums de la terre, et pour cierge, la clarté des étoiles. Dieu est ici. Sa bonté, sa grandeur se révèlent à chaque pas. Je le sens, je le vois, je l'adore dans sa plus belle œuvre. Mais non, cela ne suffit pas. Nous savons, nous comprenons qu'il est de notre devoir d'aller à la paroisse. Et dans les commencements que Claudine était ici, Marianne et moi, nous ne manquions jamais de l'y conduire, quoi que ce soit à plus d'une heure de chemin. Déjà même, on parlait de la première communion de l'enfant, lorsque tout à coup, ma pauvre femme tomba malade. Une longue et terrible maladie. Tant qu'il y eut espoir de guérison, pour payer le médecin, les remèdes, je dus travailler double. À peine Marianne pouvait-elle se traîner jusqu'au seuil de la cabiole. Enfin, ce fut la paralysie. Claudine ne quitta plus sa mère. Ah, monsieur, si vous saviez comme elle est attentive et dévouée, cette chère mignonne! Elle n'avait guère plus de 10 ans quand cela commença. 4 années se sont écoulées depuis. Elle est là toujours, près de la couchette ou du fauteuil, priant, soignant et consolant la pauvre vieille impotente. Durant le jour, elle ne s'éloigne que pour courir jusqu'au grand hameau du bois où l'on s'approvisionne. La nuit, à la moindre plainte, elle se réveille. Et toujours gaie, souriante. Ah oui, le bon Dieu est bon. Il nous a prêté un de ses anges. Et quand je pense que nous avions cru faire une bonne action, être les généreux, nous sommes au contraire les obligés, les secourus. Au lieu que ce soit la mère qui ait adopté l'enfant, c'est l'enfant qui a adopté la mère. Sans compter le père Sylvain, qui lui en est bien reconnaissant, qu'il aime de tout son cœur, mais qui parfois se sent inquiet par rapport à son avenir. Nous sommes bien vieux. Si nous lui manquions, que deviendrait-elle? Oui, oui, vous avez raison, monsieur le maître. Il faut qu'elle apprenne. Il faut qu'elle ait un état. Aidez-nous. Conseillez-nous. Mais la voici qui nous fait signe d'arriver. Vous savez son histoire. Allons maintenant manger sa soupe. » Une demi-heure plus tard, Guillaume se retirait, enchanté de ses hôtes et surtout de Claudine. « Mon enfant, lui dit-il, puisque vous ne pouvez aller à l'école, c'est l'école qui viendra à vous. Dites-le de ma part aux autres enfants de la forêt. Tous les jeudis et tous les dimanches, je leur donnerai ici ma leçon. À bientôt. » Et, reconduit par le père Sylvain, l'instituteur regagna le village. Chapitre 6. Correspondance. Vers la fin de septembre, maître Guillaume adressait la lettre suivante à M. Philippe Ménard, élève de l'école centrale, à Paris. « Chers camarades, 4 mois se sont écoulés depuis mon installation. Tout va bien. Impossible d'être plus satisfait, plus triomphant que ton ami Guillaume. Riche ou pauvre, fille ou garçon, pas un enfant ne manque à l'école. Avouons-le, cependant, une si belle victoire ne s'est pas obtenue sans peine. D'ailleurs, comme annexe, nous avons notre classe forestière. Je t'ai conté ma première visite au cabiole. 2 fois par semaine j'y retourne, et régulièrement, j'y trouve une douzaine de petits sauvages, racolés par le père Sylvain, disciplinés et préparés par Claudine. Claudine est mon aide de camp. On ne saurait imaginer une élève plus intelligente, une sous-maîtresse plus accomplie. Je dois reconnaître qu'à l'hospice, elle avait reçu, des bonnes sœurs, un commencement d'instruction, mais qui, depuis 5 ou 6 ans, s'était oublié, perdu dans les bois. Tout s'est retrouvé, se développe avec une rapidité merveilleuse. Elle sait lire, écrire et compter. Chaque leçon, elle la redonne à son tour. C'est une de ces natures généreuses, expansives, qui semblent créer tout exprès pour l'enseignement mutuel. Claudine ne saurait rien garder pour elle seule. Ce qu'elle sait, il faut que les autres l'apprennent. Ma classe se tient sous les yeux de Marianne. Dans les beaux jours, on la transporte, on l'installe au seuil de la cabane. Nous sommes un peu plus loin, groupés à l'ombre d'un vieux chêne, et c'est encore la pauvre paralytique qui préside l'école en plein vent. Grande et précieuse distraction pour elle. De temps en temps, sa fille adoptive lui adresse un regard, un sourire. Parfois même, elle court l'embrasser. Rien de plus touchant que ses caresses. Claudine est admirable de sollicitude et de dévouement. Un cœur d'or. J'ai pour cet enfant l'amitié d'un frère. Mais revenons au village. Vers l'une de ses extrémités, dans un bas-fond, se trouvent quelques chaumières isolées. On appelle cette espèce de faubourg le bout d'en bas. Je devais y rencontrer les plus récalcitrants, les plus misérables. Le maire m'en avait prévenu, il m'accompagnait. C'était le soir, devant les portes, des femmes et des enfants, voire même des hommes, étaient assis ou se traînaient, blêmes, amaigris, grelottant sous un chaud soleil. « Ils ont les fièvres, » me dit M. Fayol. « Et cela depuis 2 ans. C'est comme une épidémie. D'aucuns prétendent qu'on leur a jeté un sort. » Ce prétendu sortilège, déjà j'en soupçonnais la cause. Monsieur le curé la connaît bien aussi. Au milieu du bout d'en bas, il y a un puits commun. On venait d'y remplir un baquet placé contre la margelle. L'eau me parut troublée, jaunâtre. J'en pris quelques gouttes dans le creux de ma main, je l'approchai de mes narines, puis de mes lèvres. Une odeur désagréable, un goût âpre et qui vous prenait à la gorge, achevèrent successivement de m'éclairer. Mes yeux se portèrent aux alentours, et non loin de là, j'aperçus une mare fétide où s'écoulaient les ruisseaux des masures et le purin des fumiers. Sur les bords, à la surface, toutes sortes de détritus et d'immondices. « Monsieur le maire, dis-je à Martin Fayol, voulez-vous des ensorceler, guérir ces pauvres gens? La chose est facile. Comment cela? D'où vient leur mal? Ils boivent cette eau, n'est-il pas vrai? Sans doute. Elle est empoisonnée par les infiltrations de cette mare. Au fait, ça se pourrait bien, mais comment s'en assurer? Faites clore le puits, la rivière n'est pas loin. Mais ils sont paresseux, malades, ils vont crier. Dans 8 jours, ils ne crieront plus. Du reste, consultez le médecin. Ne vient-il pas aujourd'hui pour Grand-Jacques? Le médecin me donna raison. Le maire fit acte d'autorité. En moins d'une semaine, la fièvre avait disparu. Avec la santé, revint le travail. Avec le travail, l'aisance. Et lorsque je reparlais de l'école aux parents du bout d'en bas, ce fut à qui me répondrait « Prenez nos enfants, faites-en tout ce qui vous plaira. Ne nous avez-vous pas sauvés de la fièvre ?» Tu vois, mon cher Philippe, comme le progrès se réalise facilement. Il n'y a qu'à vouloir. J'en eus bien une nouvelle preuve avec l'adjoint Le Grippe. Celui-là m'avait été signalé comme un réfractaire systématique incorrigible. « Vous n'en obtiendrez rien, » me disait Martin Fayol. « Et pourtant ce n'est pas un sot, mais il a acheté de la terre plus que de raison. Partant, de gros engagements à remplir. Ces garçons, bien que ce ne soient encore que des enfants, doivent l'aider dans sa culture et lui gagner de l'argent. Au diable l'école !» Un beau matin, je me rendis chez ce mauvais père. Il était dans sa salle basse, devant une façon de bureau, sur lequel j'entrevis, du coin de l'œil, des actes sur papier timbré, des comptes, des paperasses, que tour à tour il regardait avec consternation ou bien froissait avec rage. Telle était sa préoccupation qu'il ne m'avait pas entendu, qu'il ne me voyait pas encore. « Ah ! » s'écria-t-il tout à coup. « Quel guignon ! Quel malheur de ne pas savoir lire ni compter !»«
Ce n'est pas moi qui vous le fais dire, monsieur l'adjoint. Je vous y prends. »
À ces mots, qui venaient d'échapper de mes lèvres, il s'était retourné vers moi. Déjà tout confus, il cherchait à dissimuler son grimoire.
« Ah ! » grommela-t-il. « C'est vous, monsieur le magistère ?»
Après m'être excusé. « Voyons, dis-je, est-ce que je ne puis pas vous venir en aide ? Et qui sait vous rendre service ?» Il hésitait. Nos paysans sont cachotiers. Ils ne veulent pas que dans leurs affaires, dans leurs mystères, pénètre le regard du voisin. Mais j'étais étranger, circonstance atténuante. De plus, je promis le secret. Il finit par prendre confiance. « Tenez, » dit-il en me présentant un papier, « voilà ce qu'il faut que je signe, car je sais signer mon nom, mais c'est tout. Déchiffrez-moi donc ce qui se trouverait au-dessus. »
C'était un engagement à payer à la Saint-Michel prochain la somme de 600 francs.
Le grip eut un mouvement de colère.
« 600 francs ? » s'écria-t-il. « Et je n'en dois que 5. Ah, le brigand d'usurier !»
Ce mot me fit dresser l'oreille. J'ai l'usure en horreur. C'est le fléau du travail.
« Combien ça ferait-il d'intérêt ? » demanda le grip.
« 20%, répondis-je.
« Et pour 3 mois ? » ajouta-t-il. « Partant 80%. »
Il savait calculer jusque-là. Je demandai des explications.
« C'est bien simple, » me dit le grip. « Je devais payer hier, et l'argent manque à la maison. Vienne la récolte et nous serons en mesure. Pour renouveler mon billet, voilà ce qu'on exige de moi. Sinon, des frais, la saisie, un affront. Il sait que je suis jaloux de ma bonne renommée. Il me tient le couteau sur la gorge.
« Mais quel est donc votre prêteur ?»«
Eh quoi, vous le demandez ? Mais vous ne connaissez donc pas encore la sangsue ? Le vampire du canton ? Arsène Ardoin !»
Déjà, l'on m'avait parlé de cet homme et de son ignoble métier.
« Auriez-vous des preuves ? » demandai-je à le grip.
« Certes, répondit-il, j'ai là toutes ses lettres et plusieurs autres billets renouvelés au même taux, car ce n'est pas la première fois qu'il m'écorche tout vivant le bourreau. Je ne sais même plus où j'en suis avec lui. Tout est là. Voyez, lisez, vous qui savez lire. »
Déjà, je prenais place au bureau, feuilletant la correspondance de l'usurier. Par une inconséquence providentielle, ces hommes, si retors, si cauteleux, s'enivrent quelquefois de l'audace du succès et se perdent par la naïveté du mal. Les lettres que j'avais sous les yeux, les billets par lesquels ces lettres se trouvaient confirmées, c'étaient des preuves irréfutables, accablantes.
« Confiez-moi toutes ces paperasses, » dis-je à le grip. « Je me charge de lui faire entendre raison. »
« Arsène Ardoin, je vous en défie. »
« Soit, à ce soir. » Et je sortis en portant mon dossier. À quelques pas de là, cependant, je réfléchis. Avais-je bien le droit de m'ériger ainsi en redresseur de tort ? Eh, pourquoi pas, quand on se sent dans le vrai, quand on ne veut que le juste. Mais encore fallait-il être assuré du succès. Par un heureux hasard, je me rappelais que la semaine précédente, en défaisant ma malle, j'avais relu dans une gazette des tribunaux, enveloppant quelques menus objets, la relation d'un procès d'usure qui n'était pas sans analogie avec le cas actuel. Le tribunal avait voulu faire un exemple, et non seulement la condamnation était sévère, mais encore l'arrêt se trouvait motivé par des considérants d'une telle lucidité, d'une telle éloquence, que j'avais conservé ce chef-d'œuvre de justice et de moralité. C'était une arme précieuse, un argument décisif. Je passai donc par l'école et j'y pris le journal.
Puis, après avoir embrassé maman Simon pour me donner du courage, je me mis à la recherche d'Arsène Ardoin. Il habite un ancien manoir en ruine, mais avec de vastes dépendances. Le tout acquis, on ne sait trop comment. C'est un ours. Il vit seul. Sa femme est morte, son fils est soldat. Pas de domestique, ça coûte trop cher. Une voisine vient faire son ménage et lui apporte ses maigres provisions. Ce n'est pas seulement un usurier, c'est un avare. Après avoir longtemps erré dans une cour humide, silencieuse, et que l'herbe et les ronces envahissent de toutes parts, après avoir frappé à plusieurs reprises contre la vieille porte renforcée de ferrures neuves, je vis enfin s'entr'ouvrir un guichet et briller à travers les barreaux des yeux inquiets comme ceux d'une bête fauve. Je m'annonçai comme venant de la part de Le Grip. Les verrous aussitôt furent tirés. J'entrai dans une grande pièce froide et poudreuse où, pour tout meuble, on voit une sale petite table flanquée d'une mauvaise chaise de paille. C'est la toile de l'araignée. Figure-toi Harpagon ou Grandet, voilà l'homme. « Vous apportez l'argent ?» dit-il d'une voix sèche et brève. « Non. »« Alors le billet ?»« Pas plus de billet que d'argent. »« Plaisantez-vous ?» Je parle sérieusement. Veuillez m'écouter de même. Une sage loi défend et punit les prêts usuraires. Peut-être l'ignoriez-vous. Je m'estime heureux de vous en instruire. Instruire, c'est mon état. Sachez donc, monsieur Ardoin, que si les magistrats avaient connaissance des lettres que voilà, des billets que voici, vous seriez condamné certainement à l'amende, et qui plus est, à la prison. Il me regardait en dessous d'un air hargneux, effaré. Moi, jamais je ne m'étais senti aussi parfaitement à l'aise, aussi courtois, mais aussi résolu. Là, vrai, mon cher Philippe, tu aurais été content de ton ami Guillaume. Et pourtant, il avait pour lui l'avantage de l'expérience, de l'habileté, de la fortune. Mais la conscience d'une bonne cause me soutenait dans cette lutte, et c'était assez pour le dominer. « C'est donc une menace ? » murmura-t-il. « Non, répondis-je, c'est un avis, et qui plus est, une proposition. » « Quelle proposition ? » ?»« Vous allez m'écrire et me signer ceci. » J'avais apporté la formule de la transaction que je voulais. Je la mis sous ses yeux. Elle était ainsi conçue. Par suite d'arrangements survenus entre nous, je reconnais et déclare accorder à Nicolas Le Grip, pour le billet de 500 francs qu'il m'a souscrit, un délai de 3 mois sans intérêt. Ces derniers mots firent bondir l'usurier.
« Sans intérêt ? »
s'écria-t-il.
« Jamais !»«
Réfléchissez, » lui répondis-je avec calme. « Je vous laisse ce journal. Lisez cet article. » Et je le lui mis sous les yeux. « Il vous éclairera, vous conseillera beaucoup mieux que je ne saurais le faire moi-même. J'attendrai jusqu'à demain matin votre réponse. » Si elle nous est favorable, comme je l'espère, ces preuves seront annulées, vous en avez ma parole. Mais je vous le jure aussi, à midi sonnant, si je ne vous ai pas revu, j'irai les remettre au procureur impérial. » Et, saluant le vieillard, je sortis. Le lendemain, à l'issue de l'école, et comme la cloche de midi sonnait, Arsène Ardoin vint à ma rencontre, et glissa dans ma main l'écrit exigé. « Au moins, murmura-t-il, gardez-moi le secret. » Je le lui promis, et sauf Philippe Ménard, dont la discrétion m'est connue, qui ne viendra jamais dans le pays, je n'ai pas soufflé mot. Mais qui fut étonné, enchanté, l'adjoint Le Grip. Ces 3 garçons sont devenus mes meilleurs écoliers. Le jour que leur père me les amena, je lui dis, en montrant certains cadres accrochés à la porte de l'école, qui est en même temps la mairie, « Quand ils sauront lire, et ce sera bientôt fait, faites-vous lire par eux chaque dimanche le bulletin des communes. Entre autres renseignements utiles, vous y verrez que la France est dotée d'un grand établissement de crédit national, le crédit qui prête, sans hypothèque, aux plus modestes agriculteurs et qui les affranchit de l'usure. Mais voici l'heure de la classe. Un autre jour, mon cher Philippe, j'achèverai cette lettre. Chapitre 7. Suite de la même. Quelques jours plus tard, Guillaume complétait ainsi sa lettre à Philippe Ménard. Le maître d'école du moindre village peut faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal. Je crois que je ferai ici beaucoup de bien. Déjà mes écoliers m'aiment. C'est tout simple, car je les aime et m'efforce de les instruire en les amusant. J'y prends moi-même un vrai plaisir. Aux enfants, il faut l'activité, le mouvement. Une immobilité trop longue les fatigue. Leur respiration souffre d'un trop long silence. Je les fais parler. Je veux que leur esprit, sans cesse en éveil, s'intéresse à chaque étude. Donc, les leçons courtes, attrayantes et les moyens variés. Un ennemi rôde autour de l'école. L'ennui. Rarement il pénètre dans la mienne. Je profite des beaux jours pour garder autant que possible les portes et les fenêtres toutes grandes ouvertes. L'air, la lumière et la gaieté circulent librement dans notre classe. La santé des élèves s'en trouve bien, celle aussi du maître. Enfin, comme l'exercice est nécessaire au développement physique et intellectuel de la jeunesse, nous faisons ensemble de fréquentes promenades. Je m'associe à leur récréation. Parfois même j'en invente. Ainsi, le village est situé sur le bord d'une belle rivière, assez rapide, mais point dangereuse. Croirais-tu qu'un préjugé en éloignait les habitants? Bien peu seraient capables de sauver un malheureux qui se noierait. Je me suis fait professeur de natation. Les bains froids, salutaires sous tant de rapports, sont pour mes élèves un encouragement, une récompense. À l'automne, ils nageront tous comme des brochets. Il y aurait encore la gymnastique. Déjà, je dirige des mouvements, des courses. Ah, si j'avais un terrain, une installation, ne me trouve pas bien ambitieux. C'est que, vois-tu, cette ambition se rattache à un autre rêve. Notre village possède un vaste bien communal, inculte et marécageux. À peine les moutons et les chèvres y broutent quelques brins d'herbe. Pendant les trois quarts de l'année, les eaux l'envahissent. On l'appelle le champ sous l'eau. Il a plus de 50 hectares. Quelle fortune pour le pays si l'on pouvait remettre en valeur ce domaine improductif. Un jour, l'idée me vint d'y essayer quelques sondages. À la surface, une certaine épaisseur de bonne terre végétale. Puis, une couche d'imperméable argile. J'y fis quelques trous, l'eau s'y précipita, fut absorbée par le sol inférieur comme avec l'avidité d'une soif de plusieurs siècles. Envoie-moi un manuel de drainage. Te voici presque ingénieur, donne-moi ton avis. Je n'ose te dire ce que j'espère, ce serait trop beau. Songe donc, 50 hectares. Nous aurions de l'argent. Déjà j'entrevois une nouvelle maison d'école, et Dieu sait que le village en a grand besoin. Mais, diras-tu, ce n'est plus là de l'enseignement, c'est de l'agriculture. Oui, c'est de l'enseignement agricole. Nous le recevons à l'école normale. Il fait partie de notre programme et surtout de notre mission dans les campagnes. Le peu que je sais, tout ce que la nature m'enseigne chaque jour, je m'attache à le répandre, à le populariser autour de moi. La plupart des enfants confiés à mes soins cultiveront la terre. Il est bon de développer en eux des notions applicables à la culture et de leur inspirer, dès le jeune âge, l'amour et l'orgueil de cette profession, la première de toutes. J'arrive à ce résultat sans entraver en rien la marche des autres études, bien au contraire. Si nous faisons une lecture, c'est dans un livre qui traite de la vie des champs. Le même esprit me guide dans le choix de mes dictées. Quelle est l'orthographe qu'il faut d'abord apprendre aux paysans? Celle des termes et des mots dont il fera le plus souvent usage. Quant au calcul, tous nos chiffres, tous nos problèmes sont en rapport direct, immédiat, avec les travaux agricoles du pays et de la saison. Ce que je veux qu'ils sachent avant tout, c'est l'arithmétique de la culture, c'est la comptabilité de la ferme. Il n'est pas jusqu'au jardinage qui ne soit de notre compétence, mais sous ce rapport, je ne suis que le lieutenant de monsieur le curé. Je t'ai déjà parlé de l'abbé Denisé, ce prêtre modèle, cet excellent horticulteur. Je lui soumets toutes mes idées, que de fois lui-même il m'en suggère, et quand je les applique, quand j'ai réussi, il se contente pour sa part, pour sa récompense, de m'adresser un modeste et doux sourire. On ne le supposerait avoir souci que de son parterre et de ses espaliers. Aucun des intérêts de la paroisse ne lui reste indifférent. Il domine, il guide et féconde toutes choses. Grâce à ses conseils, je me suis perfectionné dans la greffe et dans la taille des arbres. Il est au courant de toutes les méthodes nouvelles et souhaite ardemment les introduire dans sa paroisse. Sous ce rapport, comme sous tous les autres, nous nous entendons à merveille. Mais je voudrais avoir aussi mon jardin. C'est le complément indispensable d'une maison scolaire. Ce serait le paradis de mes enfants. Entre deux leçons, quel délassement, quelle joie pour eux et pour moi d'aligner ensemble nos plates-bandes, de sabler nos allées, d'entretenir avec art ce petit coin de terre qui serait notre orgueil. Ils grefferaient, tailleraient, bêcheraient, sèmeraient, planteraient, récolteraient sous mes yeux, d'après mes avis. C'est là, sur la nature même, que je ferai mon cours d'horticulture. Nous aurions les plus beaux légumes et les plus beaux fruits, toutes sortes de plantes utiles, un jardin botanique, des jardiniers modèles. Et le maître, l'ami, montrant la bonté de Dieu dans ses moindres œuvres, ferait mieux aimer et comprendre encore le Créateur de toutes choses. Tu vois, mon cher Philippe, que je suis toujours l'enthousiaste dont tu plaisantais autrefois. Une utopie, diras-tu. Pourquoi donc ne se réaliserait-elle pas? En ce moment même, le souvenir du champ sous l'eau me revient à l'esprit. Qui sait si je n'y trouverai pas du même coup mon gymnase et mon jardin? N'oublie pas ce que je te demande à ce sujet. Pour en revenir à monsieur le curé, souvent nous nous promenons ensemble dans les alentours. L'autre soir, il me faisait remarquer la vigueur des nombreux merisiers qui croissent à l'état presque sauvage sur le territoire de la commune, ne fournissant guère leurs fruits que pour les gamins et les moineaux, ces gamins de l'air. « Savez-vous, me dit-il, que ces arbres-là viennent chez nous merveilleusement et que, bien greffés, au lieu de merises, ils rapporteraient des cerises ?» Je m'empressai de répondre qu'à la saison, j'irai demander des greffes au jardin de l'école normale. « Très bien !» s'écria l'abbé Denisé. « Nous en préconiserons l'emploi. Ce sera un nouveau service rendu à la commune par... »« Par son pasteur !» interrompis-je. « Ce seront les cerises de monsieur le curé. »« Diplomatie, vas-tu dire ? » Ou bien encore abnégation ? C'est tout bonnement de la politesse et du bon sens. J'ai su comprendre que l'instituteur, troisième autorité du village, doit s'effacer devant les deux premières et ne rien proposer en son nom. Est-ce que la conscience d'avoir inspiré le bien ne vaut pas la gloriole de l'accomplir? D'ailleurs, mon digne curé a sur moi la triple supériorité de l'âge, du savoir, de la vertu. Je procède de même avec monsieur le maire, quoiqu'il n'ait pas les mêmes supériorités. Déjà, maintes réformes s'exécutent, dont il s'attribue tout le mérite, et cela le plus naïvement du monde. « J'y pensais !» dit-il à chaque insinuation nouvelle. « c'était justement mon idée. Puisqu'elle s'accorde avec la vôtre, c'est qu'elle est deux fois bonne. Appliquons-la. » Et comme il a de la volonté, le progrès se réalise. Voilà l'essentiel. Par exemple, lorsque je voulus lui parler de ses classes du soir, de ses cours d'adultes que le gouvernement s'efforce de créer dans les campagnes, ce qui lui sera compté comme un titre de gloire, Martin Fayolle regimba. Rien que le mot l'effarouchait.
Adulte ? Qu'est-ce que c'est que ça, des adultes ?
Et lorsque je le lui eus expliqué,
« Êtes-vous fou ? » répliqua-t-il. « J'admets que l'on veuille apprendre à lire aux enfants, à tous les enfants, mais à leur père, à leur grand-père. Croyez-vous donc que lorsque le paysan rentre le soir, accablé de lassitude, il n'ait pas besoin de repos ? Ventre affamé n'a pas d'oreille, dit le proverbe. Corps fatigué n'en a pas davantage. Après une longue journée de rude travail, on se couche, on dort.
D'accord quant à l'été, répondis-je, mais il est une autre saison, l'hiver, où durant la veillée, les hommes et les femmes de tout âge... Martin Fayolle m'interrompit par un grand éclat de rire.
Quoi ? Les femmes aussi ? Vous ramèneriez à l'école nos vieilles paysannes ?
Ce serait drôle. Et rien que pour le voir, je ne dis pas non. Mais plus tard, quand nous y serons, nous verrons. Je sentis que j'étais allé trop vite et je me tus. Mais bon gré mal gré, nous aurons notre classe du soir. Et Martin Fayolle lui-même en prendra l'initiative. Il s'en glorifiera. Ce seront les cours de Monsieur le maire. En attendant, je me rabattis sur l'abbé Denizet. L'autre soir, je le rencontrai lisant son bréviaire sur les confins du bois. J'abordai franchement la question. Il m'écouta d'abord avec son indulgent sourire, mais il ne me laissa pas même achever.
« Oui, oui, » dit-il, « je sais tout ce qui s'imprime et se prêche en faveur de cette croisade contre l'ignorance. » Nous ne sommes pas partisans de l'ignorance, croyez-le bien. Mais l'excès contraire n'a-t-il pas un danger? Nos jeunes gens ne sont déjà que trop enclins à déserter les champs pour la ville. Les campagnes se dépeuplent. On délaisse l'état de paysan. Chacun veut quitter sa sphère, abandonner son petit patrimoine pour aller courir les spéculations et les places. C'est comme une fièvre d'émigration. « Ne craignez-vous pas de l'exciter encore en multipliant le nombre de ces demi-savants qui rougissent de leur père et... » Je me permis à mon tour d'interrompre monsieur le curé. « C'est attribuer à l'instruction, répliquai-je, un mal qu'elle a précisément mission de combattre. Pourquoi fuit-on le village? C'est que par suite des communications faciles et constantes avec les cités, la comparaison lui fait tort. Il faut le rendre attrayant, confortable. Réagir contre ce préjugé que le bien-être matériel et les jouissances de l'esprit sont incompatibles avec les travaux des champs. Prouver que le bonheur est là. Il me laissait aller, je poursuivis. L'instituteur, aujourd'hui, doit initier les jeunes gens aux bienfaits de la civilisation, aux saines joies de la nature et de la vie champêtre, à l'amour du hameau. Ah, nous voulons aussi l'arrêter, ce torrent d'hommes qui s'en va inonder les villes au détriment des campagnes. Mais quelle est la seule digue que l'on puisse y opposer ? L'école, l'éducation rurale et chrétienne. Et cela tout de suite, car il y a urgence. Et cela non seulement pour les enfants, mais encore pour les adultes, pour les vieillards. « Croyez-vous qu'ils viennent à vos leçons ?»«
Mille exemples le prouvent. L'élan est donné partout. Il faut le suivre et le diriger chrétiennement. »«
Mais quand nos villageois sauront lire, que liront-ils ? De mauvais livres ?»
Comme le digne pasteur m'opposait ce dernier argument, j'aperçus à travers les arbres, dans une clairière où nous allions entrer, Claudine et le père Sylvain. Le vieillard assis sur une pièce de charpente, tenait entre ses deux mains un livre ouvert sur lequel ses yeux étaient fixés. Le doigt de l'enfant marchait sur la page. Évidemment, elle faisait lire, ou plutôt épeler, son père adoptif. Si grande était leur application à tous deux qu'ils ne s'apercevaient pas que nous approchions. À petits pas, sans bruit. Déjà nous pouvions voir remuer les lèvres du vieux bûcheron, mais les mots murmurés par lui ne nous arrivaient encore que vaguement. « Quel est donc ce livre ?» me demanda tout bas l'abbé Denizet. Ce livre, je le pris tout à coup des mains de Claudine, je le présentai à monsieur le curé. C'était l'Évangile. Il me tendit les deux mains. Puis, les yeux inondés de douces larmes, il embrassa Claudine. Il lui fera faire sa première communion le printemps prochain. « Courage !» me dit-il comme nous nous quittions ce soir-là. « Je suis avec vous. Guerre sans merci ni trêve à l'ignorance. Mais aussi, guerre impitoyable à la science impie, mille fois plus fatale que l'ignorance. Il faut que l'instruction, éclairée par la foi, se propage et pénètre partout. Partout ! Vous aviez raison de le dire le jour de votre arrivée. Le chemin de l'Église, c'est l'école. Tu vois, mon cher Philippe, que je ne perds pas mon temps. Chaque soir, après une journée bien remplie, le cœur tout joyeux d'avoir bien fait mon devoir, je soupe gaiement avec la Simone. C'est ma récompense. Ah, je l'avais bien deviné, cette excellente femme. Elle me traite, elle m'aime comme un fils. Une vraie mère. Et si tu voyais comme notre petit ménage est bien tenu, quelle propreté, quel ordre en toutes choses. La maison du maître d'école doit servir d'exemple à toutes celles du village. Il en est ainsi de la maison de maître Guillaume. Aussi, dans la commune, tout le monde m'accueille et me fête à l'envi. Tout le monde m'aime déjà. Excepté cependant Arsène Ardoin, l'usurier, que j'ai réduit à l'impuissance du mal. Et Jean Marga, dit le sanglier. Rarement ils se rencontrent sur mon chemin, mais à leur grimace obséquieuse, à leur regard en dessous, je sens que j'ai là deux ennemis. Bah, avec l'aide de Dieu. Au moment même où Guillaume venait d'écrire ce dernier mot, il fut interrompu par l'arrivée soudaine d'un jeune forestier qui, tout essoufflé, tout effaré, l'appelait à grands cris. Un grand malheur venait d'arriver au cabiole. Chapitre 8 Ensemble. Depuis quelques jours, l'état de Marianne, la vieille paralytique, s'était aggravé. Elle ne souffrait pas davantage, mais à peine Claudine parvenait-elle à lui faire prendre quelque nourriture. Son amaigrissement et sa pâleur devenaient effrayants. Ce n'était plus qu'un cadavre. Ses lèvres seules remuaient, animées par un faible souffle. Dans ses yeux, où la vie semblait réfugiée, tremblotait une lueur vague, intermittente, comme celle d'une lampe qui va s'éteindre. Tel avait été l'arrêt du médecin amené par Guillaume. On sentait que le dernier jour, que la dernière heure approchait. La douleur de Claudine et du père Sylvain était navrante. Le vieillard, courbant sa tête blanche, restait plongé dans une muette consternation, dans un morne désespoir. L'enfant s'efforçait de cacher ses larmes et de temps en temps courait au dehors, à quelques pas de la cahute, pour donner un libre cours à ses sanglots. Puis elle revenait en toute hâte, active et vigilante comme toujours. La mourante avait parfois un éclair dans le regard, un cri venu du cœur. Elle comprenait tout. Une affection profonde et touchante existait entre ces trois pauvres créatures, isolées au milieu des bois. Cependant, le vieux bûcheron s'en allait chaque jour à son travail. Il le voulait ainsi. Le soir, il s'en revenait au pas de course et tout palpitant d'angoisse jusqu'au seuil de la cabiole. Il hésitait avant d'y pénétrer. Du regard, il interrogeait Claudine. et ce n'était qu'après sa réponse qu'il osait enfin regarder la mourante, s'approcher d'elle et lui mettre un long baiser sur le front. Marianne se ranimait pour un instant. Elle avait un regard, presque un sourire, qui semblait répondre « Je suis encore là. Merci. Du courage. » Un peu plus tard, Claudine servait la soupe. On mangeait en silence. Puis, du geste, le vieillard contraignait l'enfant à s'étendre sur sa couche de bruyère, à fermer les yeux. Quant à lui, prenant place auprès de la malade et la main dans sa main, il veillait. Une lampe rustique, suspendue dans la cheminée, éclairait seule ce triste tableau. Avant de succomber au sommeil, le père Sylvain murmurait cette fervente prière. « Mon bon Dieu, prolongez les jours de ma vieille compagne ou bien abrégez les miens. Faites que nous partions ensemble. » Si, par hasard, il tournait la tête du côté de la couchette de Claudine, souvent il voyait briller dans l'ombre ses deux grands yeux attendris. La fillette refermait vivement les paupières et le vieux bûcheron se reprenait ainsi. « Ne m'exaucez pas, mon Dieu! Il faut que je travaille encore pour la petite, jusqu'à ce qu'elle puisse gagner son pain, jusqu'à ce qu'elle soit grande. » Au jour naissant, il reprenait sa cognée. Ce matin-là, Claudine s'était efforcée de le retenir. « Ne nous quittez pas, père Sylvain, il reste assez d'argent. » Il l'avait interrompu. « Pour nous, mon enfant, mais non pas pour toi. J'ai toujours eu ce pressentiment que je ne survivrai guère à Marianne, et jusqu'à mon dernier jour, je veux te gagner quelque chose de plus. Que deviendras-tu quand nous ne serons plus là ? À ce soir. » Sans vouloir s'expliquer davantage, il était parti. Sa tâche était en ce moment débrancher de vieux chênes croissant parmi des rochers. Il avait plu durant la nuit. L'écorce était humide et glissante. Un froid assez vif faisait trembler le vieux bûcheron. Il tomba. Sa tête avait porté sur des pierres aiguës. Couvert de sang, le crâne entrouvert, il resta sur le cou évanoui, comme mort. Vers le soir seulement, quelques bûcherons qui passaient par là l'aperçurent et le relevèrent. Il n'avait pas encore repris connaissance. Le père Sylvain était adoré de ses compagnons. Ils le mirent sur une sorte de brancard, ils le ramenèrent à la cabiole. Du plus loin que Claudine aperçut ce funèbre cortège, son instinct l'avertit du nouveau malheur qui la menaçait. Elle jeta un grand cri. Ce cri alla droit au cœur de la paralytique. Par un suprême effort, elle parvint à se soulever et retomba. Puis, les yeux démesurément ouverts, elle regarda le blessé qu'on plaçait auprès d'elle. Il commençait à revenir à lui. Il pensa tout d'abord à la mourante. L'effroi, le désespoir n'allaient-ils pas lui porter le dernier coup ? « Ça ne sera rien, » murmurait-il. « Ne t'inquiète pas, Marianne, je me sens mieux. Vrai, ce n'est rien. » La mort était sur son visage. « Antoine est allé chercher monsieur le curé et le médecin, » dit l'un des forestiers à Claudine. Elle semblait frappée de stupeur. Elle s'écria tout à coup, « Maître Guillaume, courez prévenir maître Guillaume !» L'instituteur avait inspiré à Claudine une grande confiance, une grande amitié. Un des jeunes forestiers partit aussitôt pour le village. Le digne curé s'empressa d'accourir et les deux vieillards demandèrent ensemble à recevoir les derniers sacrements. Guillaume arriva peu de temps après le médecin, qui déjà examinait, pansait la blessure. À son regard, Guillaume comprit qu'elle était mortelle. Marianne, Claudine, le père Sylvain l'interrogeaient aussi des yeux. Pour tous les trois, il y eut la même révélation. Claudine se laissa tomber sur un escabeau, les mains enfouies dans ses cheveux. La vieille paralytique, agitée par un spasme d'agonie, parut prête à rendre l'âme. « Attends-moi !» s'écria le père Sylvain. « Partons,
Partons ensemble. »
Un sanglot déchirant s'échappa des lèvres de Claudine. Elle s'élança vers eux, s'agenouilla devant eux, les bras étendus comme pour les supplier de ne pas la quitter encore.
« Ah, mon enfant, ma pauvre enfant !» dit le père Sylvain. « C'est ma faute. J'avais demandé cela au bon Dieu. Il n'aurait pas dû m'exaucer. Je le regrette, pour toi. Mais que veux-tu ? C'est fini, je le sens, c'est fini. Ne pleure pas. Embrasse-moi. Embrasse la vieille. Nous t'aimons bien. J'avais prévu notre séparation. Tu ne resteras pas sans ressources. »
Puis, tandis que l'enfant, tout en pleurs, le couvrait de caresses éperdues, il continua, s'adressant à Guillaume.
« Monsieur le maître, là-bas, sur la poutre, prenez cette image de la bonne Vierge. »
Il désignait une grossière statuette en bois, taillée par le couteau naïf de quelques bûcherons ayant des instincts d'artiste, et que le temps, la fumée, avait rendue toute noire. L'instituteur obéit.
« Soulevez son menton !»
poursuivit le moribond d'une voix de plus en plus affaiblie.
« Elle est creuse. Une cachette. Ma tirelire. »
Effectivement, Guillaume venait de trouver le secret. Quelques pièces blanches roulèrent sur le sol. La statuette en était presque entièrement remplie. Avec un regard où brillait à la fois la tendresse et l'orgueil, le père Sylvain dit encore
« Depuis 5 ans, jour par jour, j'ai mis là tout ce que j'ai pu. Nos petites économies. C'est la dot de Claudine. Je vous la confie, maître Guillaume. Adieu. »
Après une dernière convulsion, la mourante venait de retomber sur sa couche.
« Me voici, Marianne, » murmura-t-il en s'y renversant à son tour. « Me voici. »
Et la main dans sa main, il expira. Son pressentiment ne l'avait pas trompé. Son vœu se trouvait accompli. Leurs deux âmes s'en retournaient ensemble dans le ciel. Cependant, Claudine s'était redressée, toute palpitante de désespoir et d'épouvante. Elle allait se jeter à corps perdu sur les deux cadavres. Guillaume la retint dans ses bras. Elle y fut saisie d'une violente crise nerveuse. Puis, avec des sanglots, des spasmes, elle s'évanouit. Cherchant du regard un aide, l'instituteur aperçut la Simone, qui l'avait suivie, qui le regardait. Il lui dit
« Vous avez entendu, Simone ?»«
Oui, » répondit-elle.
« Nous nous comprenons, Guillaume. J'avais un fils, me voici maintenant une fille. Emmenons votre sœur. »
Mais déjà Claudine se ranimait, vaillante et résolue.
« Non, » dit-elle, « je reste ici. » Jusqu'à sa dernière heure, il a travaillé pour moi. Jusqu'au dernier moment, je ne les quitterai pas. »
Dans le cœur de cet enfant, il y avait le courage et la volonté d'une femme. Avec les femmes qui veillèrent, elle passa la nuit. Elle les aida à ensevelir ses chers morts. Elle voulut leur dire un dernier adieu, leur donner à chacun un dernier baiser avant qu'on ne fermât les deux cercueils. Le lendemain, elle les accompagna jusqu'au cimetière. La Simone et Guillaume étaient à ses côtés. Mais lorsque la fosse fut recouverte, l'exaltation qui soutenait la pauvre enfant tomba tout à coup. Ses yeux en pleurs se voilèrent et, toute frissonnante, comme morte, elle s'affaissa sur elle-même. Guillaume l'enleva dans ses bras. La Simone la couvrit de sa mante. Ils l'emportèrent.
« Bien, » dit le curé qui connaissait leurs charitables intentions. « C'est bien, mes enfants. Dieu vous bénira. »